Pour 2019, il en coûtera plus cher pour se nourrir, Mme
Oui,
France.
C'est un rapport d'un professeur de politique agroalimentaire de l'Université de Dalhousie, Sylvain Charlebois. Il pourrait en coûter au maximum 411 $ par an pour un panier d'épicerie. Ça, c'est si ça augmente de 3,5, mais c'est entre 1,5 et 3,5. Mais ça va augmenter de toute façon, particulièrement le prix des légumes, alors que celui de la viande et du poisson, pour toutes sortes de raisons, serait à la baisse. C'est une mauvaise nouvelle. Parce que c'est beaucoup, 400 $, si ça se rend jusque-là, pour des familles qui sont déjà, des familles à faible revenu qui sont déjà pressées de toutes parts. Parce que l'épicerie, tu comprends, on ne paye pas la nourriture au prorata de notre salaire. Fait que pour des familles à l'aise, la classe moyenne supérieure ou très aisée, il n'y aura pas vraiment de dommages. Ça va toucher ceux qui sont le plus, qui reçoivent durement l'impact des hausses de taxes, des hausses des frais à l'école de toutes sortes. Bref, des familles qui ont déjà beaucoup de misère à joindre les deux bouts. Et c'est clair que ce n'est pas le livre de recettes de Philippe Couillard, Vivre à 4 pour 75 $
ou de François
par semaine,
Lambert.
Ou de François Lambert. Ils ne sont pas sortis encore, donc il va falloir faire avec une épicerie qui peut te coûter pour 4 personnes certainement jusqu'à 250 $ par semaine si tu essayes de mettre des légumes puis vraiment des aliments nutritifs dans ton panier. Et puis, c'est surtout qu'on a beaucoup de toutes parts en ce moment, des injonctions à bien manger. Il y a ça, puis il y a la réalité. Ce qui coûte pas cher, c'est le junk, ce sont les calories vides, c'est le gras, c'est le sucré, c'est des aliments transformés, vraiment de la grosse nourriture industrielle qui coûte vraiment pas cher.
Mais la viande va coûter moins cher.
La viande va coûter moins cher, mais malgré tout, je veux bien qu'on dise ça, la viande et le poisson vont coûter moins cher, mais encore faut-il en acheter une certaine quantité. Ça coûte moins cher, mais c'est quand même un aliment qui coûte cher en
oui,
soi.
Oui, c'est sûr.
Le poisson, on veut bien tous en manger, mais c'est un aliment qui coûte très cher quand même. Et puis, il y a toutes ces injonctions à manger local, tout ce monde qui mange sans gluten, qui mange végétarien, ça coûte bio, toutes des impératifs qu'on entend dans les émissions, qu'on nous rebâche dans les magazines, ça coûte toujours plus cher manger de cette manière-là. Et puis, il y a les conséquences des changements climatiques qui viennent nous rejoindre jusque dans l'assiette, ces légumes qui vont coûter plus cher, c'est parce qu'au Mexique, en Californie, il y a de la sécheresse. Un avocat, ça prend je ne sais pas combien de litres d'eau à faire pousser. Il y a un impact au changement climatique. Donc, ça coûte plus cher dans notre assiette. Et je me rendais compte que ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'argent, bien manger. Manger équilibré demande de l'argent, forcément, tout ce que je viens de te dire. Manger équilibré demande aussi beaucoup de temps. Il faut faire ses repas, il faut faire les lunchs, il faut vraiment veiller à être très vigilant sur ce qu'on a dans l'assiette, faire ses courses de manière vraiment en comparant les étiquettes. Donc, ça demande beaucoup de temps. Qui a le temps de faire tous ces repas dans un monde où les parents ont deux jobs, s'occupent des enfants, font les devoirs, c'est du temps qui nous manque. Ça demande également...
Mais le secret de Philippe Couillard, c'était de dire, faites-en en grande quantité,
exactement,
vous allez en avoir la semaine.
Exactement, mais ça demande de savoir cuisiner et on se rend compte que tout le monde ne sait pas cuisiner. C'est un des grands trucs sur lequel revient souvent Ricardo Larrivé. On ne sait plus cuisiner.
Ça, c'est vrai, il a raison là-dessus.
Il a tout à fait
raison.
M'inclus
là-dedans, je m'inclus là-dedans parce que je fais beaucoup d'erreurs.
Et c'est vrai que quand on cuisine une maison, c'est sûr que ça prend du temps, mais ça coûte moins cher. On parvient à économiser, à contrôler les quantités, la qualité, mais encore faut-il avoir le temps. J'y reviens tout le temps.
Ça prend le temps.
Oui.
J'ai toujours le temps.
Le temps pour magasiner
le
aussi.
Le temps de le faire cuire aussi.
Oui, mais le temps de magasiner avant même de le faire cuire, le temps de courir
oui.
les spéciaux parce que, oui, il y a plein de monde. On a beau rire de ça. Il y a plein de monde qui court les spéciaux, qui compare les circulaires. Ça prend le temps d'aller pas dans un seul supermarché où les légumes sont toujours trop chers et pas très beaux. Il faut en faire plusieurs. Mais là encore, il faut avoir le temps. Bref, de réussir à contourner cette augmentation annoncée de 400 $ par année de plus pour une famille de quatre, il faut avoir du temps. Ça prend des connaissances. Bref, on vire parano ou on vire coupable ou on est appauvri si on essaye de bien manger. Il y a toutes sortes de solutions. Essayer de cuisiner. Non, mais c'est vrai. Quand M. Couillard disait la solution, c'est de cuisiner cuisiner en grande quantité.
Oui, oui.
De cuisiner en grande quantité, des fois, le samedi, de réunir sa famille ou des amis, de cuisiner en gang, de séparer des portions, de séparer les tâches.
Oui.
Mais c'est vraiment une course très culpabilisante que d'essayer de bien manger quand on est une famille. Puis
ça demande
manger
de la planification.
Tout à fait.
Et comme tu l'as dit,
temps et planification.
On n'a pas le temps.
On n'a pas le temps. Voilà, exactement.
Est-ce que tu penses que le gouvernement français a capitulé devant les gilets jaunes?
Alors, le gouvernement Macron, ses ministres ont proposé un moratoire de 6 mois sur la fameuse taxe sur les carburants et sur les augmentations de taux du gaz et de l'électricité. Et la réponse des gilets jaunes, mais quand je dis des gilets jaunes, de quelques-uns, parce qu'ils n'ont pas de chef, ils n'ont pas de délégué, ils n'ont pas de porte-parole, vraiment, ça a été de dire, c'est pas assez, ce sont des mesurettes, on ne veut pas la suspension pour 6 mois, on veut l'annulation de ces mesures. Là. Et il faut dire que les revendications sont multiples aussi. Il y a le prix du carburant, mais on y va aussi sur la suppression de l'impôt. On veut rétablir l'impôt sur la fortune. On veut l'indexation du SMIC, qui est le salaire minimum en France. On veut plus de représentativité au Parlement. On est contre la richesse. Ça va vraiment dans toutes les directions. Fait que peu importe ce que va proposer le gouvernement, pour certains, ça ne sera jamais assez. Et depuis quelques jours, on constate, les observateurs, moi j'ai beaucoup, beaucoup écouté la radio française depuis samedi dernier, et le mouvement a un peu changé de visage. Il est toujours aussi déstructuré, sans porte-parole, mais les plus vieux, les retraités, ceux qui étaient là au départ, contrôlent plus vraiment. Ce sont des plus jeunes qui, depuis la fin de semaine dernière, ont récupéré la contestation, plus crinqués, plus enclins aux mesures fortes. On annonce un quatrième samedi de manifestation.
Oui, celui-là, il est inquiétant parce que dans le fond...
Oui. Là, je ne parle pas nécessairement des casseurs. Hein?
Non.
Les gilets jaunes.
Sais. Mais ça sent dans le ton du gouvernement avec cette décision.
Exactement.
De garder une espèce de moratoire pour un certain temps. Passons l'hiver, on verra après.
Ouais.
Le message n'est pas reçu, mais c'est comme une espèce de cri de désespoir de la part du gouvernement. Et le patronat a embarqué là-dedans.
Le patronat a embarqué, bien sûr.
S'il vous plaît, calmez-vous.
L'économie en souffre et on en voit déjà des conséquences. Et là, aujourd'hui, on apprenait que viennent se joindre, pas vraiment au mouvement des Gilets jaunes parce qu'ils ne veulent rien savoir des partis politiques et des syndicats, mais se greffent à ça les deux syndicats les plus jusqu'au boutistes, les plus connotés en France, la CGT et Force ouvrière, les plus à gauche, si tu veux, ont décidé à partir de dimanche de demander à leurs membres une grève générale. La Sorbonne a été bloquée aujourd'hui, la Grande Université de Paris. Les lycées débrayent. Donc, le gouvernement s'est exposé. Il a joué trop lentement, il a joué trop peu. Il est aujourd'hui en position de faiblesse et les Gilets jaunes se rendent compte qu'ils ont réussi à ébranler,
ouais,
même pas juste le gouvernement, le système politique français au complet, sans syndicats, sans parti d'opposition. C'est énorme la force qu'ils ont.
Et quelle situation nouvelle, cette union de toutes les tendances. Vous avez des gens de l'extrême gauche qui s'associent à des gens de l'extrême droite.
Oui.
Vous avez des centristes là-dedans qui disent « allons d'un bord, allons de l'autre ». Tout le monde est uni dans une sorte de rage.
Exactement.
Collective.
Et
il n'y a plus de ligne qui vous distingue.
Qu'est-ce que tu réclames? Tu réclames et tu t'arrêtes.
Moi, je me réclame de la droite. Non, tout le monde est ensemble. Dans
exactement. C'est tout à fait nouveau. Ça me fait penser, en fait, c'est comparable à rien, ni à mai 68, ni au mouvement étudiant qu'on a connu
68,
ici.
68, c'était à gauche.
Mais il y avait, tu te souviens, en 2012, ici, à un moment donné, à la fin, vers la fin du printemps érable, il y avait eu ce mouvement des casseroles, où tout le monde descendait dans la rue.
Oui, c'est vrai.
Beaucoup descendaient dans la rue.
Oui.
Et réclamait tout et son contraire. C'était plus juste contre la hausse des frais de scolarité.
Mais là, t'avais des gens de toutes les tendances.
On voulait un changement de régime. C'était toutes sortes de choses. Et il y a un peu ce genre de revendication floue, globale, un ras-le-bol total qui s'exprime. Et il y a vraiment, tu t'en rends compte, il y a vraiment deux France. Il y a deux France, il y a deux peuples, il y a deux mondes qui s'affrontent dans ce conflit-là. Et comme rien n'est clair, ça peut durer longtemps. Parce que comment le gouvernement ne proposera jamais assez. Et la rage de ces gens-là, de cette France-là qui se sent déclassée, est certainement légitime. Fait que c'est très, très, très difficile à concilier.
J'ai hâte de voir le week-end prochain.
Oh, boboy, oui. Ça va être quelque chose à suivre.
Oui, elle est annoncée, cette confrontation prévue pour samedi, dimanche. Et c'est pas les mesures actuelles de ces moratoires.
Non.
Passons l'hiver, on verra après, qui risquent de les calmer.
Oui, et je vais juste rajouter un dernier truc. Il y a, on en parle de manière théorique, puis dans les débats à la radio, on en parle en France de manière très théorique. Il y a un écrivain français qui s'appelle Édouard Louis, qui vient du nord de la France, qui vient de cette France-là qui se manifeste à travers les gilets jaunes. Une famille très pauvre et lui est devenu un écrivain qui a un certain succès. Et il a lancé aujourd'hui sur Twitter une enfilade de tweets où il raconte ce que c'est pour lui, comment il soutient les gilets jaunes, parce qu'il dit « Je me reconnais, c'est mon père, c'est ma mère, c'est ma tante. » Ce sont, et ça m'a frappé, puis ça a dû te frapper quand on regardait la télévision en fin de semaine, il y avait des gilets jaunes invités aux téléjournaux. Et c'était des têtes, des corps que tu ne vois jamais à la télé et qui clashaient avec les présentatrices très chics et les présentateurs très stricts. Et lui dit, ce sont des corps que vous ne connaissez pas. Ils manifestent à travers leur corps. C'est quelque chose de profondément ressenti. Allez voir ça, c'est Édouard, trait de soulignement, Louis.
Oui,
mais... Et vous lirez ça, c'est il raconte comme je me suis jamais fait raconter les gilets jaunes.
Merci beaucoup, Marie-France.
À demain.
Et à demain.